Ok. Donc on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, Elou Metziot. C'est Daf Rafalef. Donc c'est page 21. Ça doit être 21 quelque chose. 21A.
Ah oui.
Et Bezrat Hashem, on reviendra vers toi, Shnaïm Ochazim. Voilà. 21A3. 21 à 3. Ok. Donc dans ce chapitre, maintenant que vous trouvez la page, 21 à 3. Dans ce chapitre, la Gemara va continuer à parler de la mitzvah de Hashavat Aveda. La mitzvah de Hashavat Aveda, c'est-à-dire qu'on a tous une mitzvah de rendre la perte. D'accord. C'est écrit dans la Torah que tu ne pourras pas voir le taureau de ton ami ou sa brebis qui sont égarés. D'accord. Et tu feras comme si tu ne les as pas vus, tu devras les rendre. C'est-à-dire que quand je trouve un objet et je sais qu'il appartient à un ami à moi, je ne peux pas les ignorer, j'ai une mitzvah de les rendre. Donc, tout d'abord, je ne peux pas me les approprier, ça c'est sûr. Mais à part ça, j'ai une mitzvah de Hashavat Aveda de les rendre. Et la Torah continue, elle dit, ainsi tu devras faire pour son vêtement et pour tout ce que tu vas trouver et que tu sais que ce sera ton ami, tu devras lui rendre. Donc, c'est clair, selon la Torah, on a une mitzvah de rendre ce qu'on trouve à son propriétaire. C'est-à-dire pas seulement quand on a parole de s'approprier, c'est sûr. On a une mitzvah de le rendre à son propriétaire. Alors, comment on va étudier dans la Mishnah ici, si on sait que les propriétaires ont déjà fait Yehush, ça veut dire quoi Yehush ? Ça veut dire on sait qu'ils ont déjà abandonné l'objet qu'ils ont perdu. Par exemple, si je perds 50 euros de ma poche, j'ai abandonné de les retrouver, puisque je sais que 50 euros, il n'y a aucun signe distinctif sur les 50 euros, donc j'ai abandonné. Là, dans ce cas-là, on verra dans certaines conditions comment on peut le prendre quand on l'a trouvé. Ça. Et c'est de ça qu'on va parler directement dans notre Mishnah. Notre Mishnah va commencer à parler Elou Metziot, pour nous dire dans quelle chose c'est considéré comme si qu'il y avait un siman. Alors, c'est encore autre chose. Mis à part le concept de Yehush que je viens d'expliquer, il y a un concept de siman. Donc Yehush en hébreu ça veut dire abandon. Donc on va essayer de voir dans la Gemara plusieurs cas. Et on va analyser à chaque fois est-ce que le propriétaire a abandonné son objet ou il n'a pas abandonné. C'est une première chose. Deuxième chose, c'est siman. Siman c'est un signe distinctif. Le siman, on va voir ce mot-là plusieurs dizaines de fois dans notre chapitre. C'est quoi le concept du siman? C'est un signe distinctif. Ça veut dire comme ça. Si je perds un porte-monnaie avec un signe distinctif dessus, par exemple mes initiales, je garde l'espoir dans ma tête que je vais le retrouver. Que quelqu'un de bonne foi va le retrouver et qui mettra une annonce. Par exemple, si je l'ai perdu au Petrabas, il mettra une annonce, j'ai trouvé un porte-monnaie avec des initiales. Donc dans ma tête, je ne l'ai pas abandonné. Tant que je ne l'ai pas abandonné, celui qui l'a trouvé ne peut pas le prendre. Comment on va savoir si je l'ai abandonné ou pas? C'est pour ça qu'on aura la Gemara qui va nous déterminer, qui va nous définir dans quel cas on considère que la personne a fait Yehush. C'est-à-dire que fait Yehush, ça veut dire qu'il a abandonné. Dans quel cas on considère qu'il n'a pas fait.
Donc c'est lié, le Siman...
Bien sûr, c'est lié. Donc on passe directement à la Mishnah. Elou Metziot, Shelo. Voici les trouvailles qui sont à lui.
Celui qui a trouvé.
Ça veut dire quoi qu'ils sont à lui? Ça veut dire que celui qui les a trouvés, celui qui a trouvé, ça lui appartient. Et tu peux rentrer.
Tu peux.
Viens,
je vais passer par la
porte. Alors,
faut l'ouvrir. Tu peux ouvrir la porte.
Voici les trouvailles qui sont chez l'eau, qui sont à lui. Ve'elu, chayav le'achiz. Et voici ceux qui ne sont pas à lui, mais que non seulement qui ne sont pas à lui, mais qu'il a une obligation de proclamer. D'accord. Ça veut dire quoi une obligation de proclamer? Ça veut dire que non seulement qu'ils ne sont pas à lui, qu'il ne peut pas se les approprier, mais qu'il a une obligation de proclamer. Donc proclamer, ça voudra dire par exemple mettre une annonce. D'accord. Ça pourrait être par exemple annoncer à la synagogue que j'ai trouvé, voilà, avec un signe. Celui qui me dira le signe pourra le reprendre. Par exemple, j'ai trouvé un porte-monnaie avec des initiales. Celui qui me dira les initiales peut le reprendre. Parce que là, je ne veux pas non plus dire...
On a un gros diamant, celui qui me dit les carats, je lui...
On a un bel exemple à Pavé, parce que sans le tableau,
oui,
de l'enterre de la Yeshiva,
oui, bien sûr.
On trouve beaucoup d'annonces. Hein.
Exactement.
Ouais. Même parfois trouver de l'argent et trouver...
L'argent, c'est plus compliqué. Bon. Alors, Elou Metziot, Shelo. Donc on va en parler tout de suite.
Mais l'endroit où il a été trouvé.
compliqué.
C'est compliqué parce que
l'argent va en parler.
Qui fait exprès pour voir si
l'argent va en parler, c'est pratiquement impossible.
Si c'est bien suivi,
il y a beaucoup
de défis.
Il y a beaucoup de définitions.
On va voir si on va le trouver sur le tableau.
Des fois, dans un porte-monnaie.
On va pas s'égarer, mais il y a beaucoup de définitions qu'on va devoir étudier. Déjà, il y a définition par rapport à l'objet qui a été perdu, par rapport à l'endroit dans lequel il a été trouvé. Beaucoup de définitions qu'on va étudier dans le chapitre de l'Ometziot. C'est un chapitre qui aura plus un style halachique que le premier chapitre. Donc il sera beaucoup plus facile. Voilà, si ça peut vous encourager.
Ça vous encourage pas, vous êtes des nazes.
Oui. Non. Voilà, moi je vous considère comme un naze.
Voilà.
En tant que naze...
Ça veut dire que c'est plus facile, c'est un chapitre qui est plus facile que le premier, et que Bezrat Hashem reviendra en premier.
C'est logique.
Elou Metziot Chelov, Elou Chayev Lachis. Donc voici les trouvailles qui sont à lui.
Cette Magmara, rien n'est naze.
Bien sûr, mais rien n'est naze.
Rien n'est naze.
Voilà.
Non, mais dans son esprit, on est là.
J'ai amené un livre aujourd'hui. Regardez. J'ai amené un livre aujourd'hui que je viens de recevoir la semaine dernière d'Angleterre. Ça s'appelle Otsar Mefarshei Talmud. Otsar Mefarshei Talmud, ça veut dire le trésor des commentaires du Talmud. Ça veut dire que ça, c'est un livre. Dans celui-là, par exemple, il couvre que le deuxième et le troisième chapitre. J'avais un autre aussi sur le premier chapitre, mais bon, je l'ai gardé chez moi. Et dans lequel il cite tous les commentaires qu'il y a sur la Gemara. Mais il les cite en résumé, quoi. C'est presque une référence. Presque il envoie des références. Donc, Baruch Hashem, il y a beaucoup à dire. C'est pas un chapitre qui est simple. Mais.
Tu en as combien des livres comme ça?
Il est là.
Ça, c'est pour Baba Metzia.
Ouais. J'en ai que trois, mais bon, il y en a beaucoup.
Après, pour Baba Metzia, il y en a trois pour Baba Metzia, comme ça.
Non, sur Baba Metzia, ils en ont fait trois, ouais. Mais ça couvre même pas tout Baba Metzia, parce que c'est très très dur à faire comme travail. Bon. Alors, quoi qu'il en soit. Non. Hello, Metzia,
tu vois qu'il y a des commentaires sur...
Et ça, c'est un condensé.
Un condensé, ouais. Donc, Hello, Metzia, Cello. Vous voyez, par exemple, ici, dans l'autre livre que j'ai... Dans l'autre livre que j'ai à ma gauche, ça c'est le Kovetz Mefarshim que je vous ai montré au début. Ça c'est un livre qui a une vingtaine de commentaires, mais c'est tout. Bon, c'est 20 commentaires principaux. Là, celui-là, c'est pas 20. À la fin, il cite le nombre de références. Le nombre de références qui sont amenées dans le livre. Alors, juste vous dire, en référence, il y a deux colonnes dans les grandes pages. J'en ai au moins 400 là, sans exagérer. À la fin, tout ça c'est que les noms des livres qui ont été ramenés à l'intérieur. J'en ai au moins 400, sans exagérer.
Il y a 400 commentaires de Gemara.
Au moins, oui, parce qu'après, il va chercher partout. C'est une équipe.
Ça fait 2000 ans qu'on écrit.
C'est une équipe, c'est pas un calcul.
Oui, c'est une équipe de 5 rabbanis, mais chaque fois ils prennent les rabbanis, ils connaissent bien cette masechet. Bon, alors, donc, voici les trouvailles qui sont à lui, et voici les trouvailles qu'il a l'obligation
d'annoncer.
Non seulement c'est pas à lui, mais qu'il a l'obligation d'annoncer. Alors, Elou Metziot Chelo, voici les trouvailles qui sont à lui. Matsa Perot Mefuzari. Si il a trouvé. Si, donc il, ça, on dit à chaque fois à la troisième personne, donc disons que j'ai trouvé Perot Mefuzarim, des fruits Mefuzarim qui sont éparpillés. Je trouve des fruits éparpillés par terre. On verra la définition dans la Gemara, qu'est-ce qui est considéré comme éparpillé, à partir de combien c'est considéré que c'est éparpillé, hein, parce que c'est très difficile, tu dis, c'est posé, comment on considère que c'est éparpillé. Donc ça, on verra dans la Gemara. Dans ce cas-là, comme la Gemara expliquera, les fruits sont considérés Hefker, sont considérés abandonnés. Donc puisqu'ils sont abandonnés, celui qui les trouve peut les prendre. Deuxième exemple. Marot Mefuzarot. De l'argent. D'accord? De l'argent, quand la Gemara expliquera, de l'argent, ça veut dire aussi de la monnaie. Des petites pièces. Des petites pièces qui sont éparpillées. Puisqu'il n'y a pas de siman, il n'y a pas de signe distinctif sur cette monnaie. Donc, comme on l'expliquera dans la Gemara, les propriétaires ont déjà abandonné, ont déjà perdu espoir de le retrouver, certainement. Donc, celui qui le trouve peut le prendre. Par contre, comme la Gemara expliquera, si c'est Tsibouré Marot, c'est-à-dire si c'est à l'époque ils avaient des bourses dans lesquelles ils mettaient des pièces, aujourd'hui ça aurait été l'exemple d'un porte-monnaie, là c'est différent. S'il y a un signe distinctif, si parmi deux ans j'avais ma carte d'identité, j'avais des choses, bon, là c'est différent. Là c'est différent parce que là on dit que le propriétaire n'abandonne pas. Le propriétaire ne perd pas espoir de retrouver. Donc, mais la Mishnah parle ici d'un cas de pièces. De petites pièces qui sont éparpillées, que là, c'est considéré que le propriétaire a dit, petites pièces,
je les ai perdues,
c'est fini, je ne retrouverai jamais. Disons que c'est les pièces de 2 euros, d'accord ? Il a perdu 30 pièces de 2 euros, et jamais je vais le retrouver, c'est fini, c'est perdu. Krichot, Birchut Arabi. Ainsi que s'il a trouvé Krichot, ça veut dire, je ne sais pas comment il traduit ça ici, c'est des petites gerbes. Alors, des petites gerbes, donc Birchut Arabi dans le domaine public. D'accord? Donc des gerbes, ça veut dire, c'est des. Donc on a plusieurs, on a des épis qui sont attachés avec un fil. sais pas comment on fait ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était comme ça en tout cas. On a plusieurs épis de blé qui sont attachés avec un fil. Donc ils sont faits pour être vendus ou pour. Bon, c'est comme ça que c'était vendu. Alors, on les a trouvés, birshut aravim. Chaque mot est important dans la Mishnah. Dans le domaine public. Quand on est dans le domaine public, la Mishnah expliquera que c'est pas seulement le domaine public, mais c'est même également un endroit dans lequel il y a beaucoup de monde qui passe. Donc une synagogue, par exemple. Synagogue, ici, il y a beaucoup de monde qui passe. C'est pas un endroit privé. Par domaine public, on entend un endroit qui est public. Un endroit dans lequel il y a beaucoup de monde qui passe. Parce que si c'était...
Là, ça va peut-être dans le champ de celui
voilà,
à
oui,
qui il appartient. Ah, je les ai trouvés. Oui, mais ils sont dans le champ.
Ça peut être dans une cour aussi.
Ah, c'est trop cher. Plusieurs.
Ça peut être dans une cour.
Oui, là où ils ont entreposé. Bon, on peut penser, penser qu'ils ont...
Tout ça, on verra dans la Gemara.
Voilà,
ça peut être dans une cour. Je trouve déjà dans une cour. Je dis, bon, dans une cour... la personne, il va les abandonner, on verra. Là, pour l'instant, la Mishnah te dit seulement Birchut Arabim dans le domaine public. Autre exemple. Mara expliquera, bien entendu, pourquoi on a besoin d'amener tous ces exemples-là. Veigoulé de Vela, des rondelles de figues sèches. D'accord ? Alors, c'est quoi ces rondelles de figues sèches ? Donc, c'était des figues qui étaient séchées. Ensuite, on les écrasait avec un ustensile qui était rond. D'accord ? Donc, on les formait une jolie forme. Ils prenaient une forme ronde, comme ça, très jolie. Et après, on faisait un trou dans ces figues-là, et on faisait des colliers. Et ça se vendait comme ça.
Ça existe toujours. C'est des figues à la turque, là.
Et ça se vend en collier comme ça ?
Oui, oui, comme voilà. L'ail avec
un bien les figues à l'époque.
Il y a aussi des... Oui, ils aimaient bien les figues.
On avait vu
comme les Tunisiens.
Le gâteau de figues,
les trucs. Oui, le gâteau de figues. Les Tunisiens aussi, ils aiment bien les figues.
La bourra. La bourra, ouais. C'est de l'huile de figues, hein. Ouais. C'est quoi d'autre ?
Veigoulé de Vela. Donc, des rondelles de figues. Des rondelles de figues, c'est la même chose. Il n'y a pas de signe distinctif dessus. La personne abandonne. Kikarote, Shenlartom. Kikarote, ça veut dire des pains. Shenlartom, du boulanger. Pourquoi on dit du boulanger ? Mara expliquera, parce qu'il y a une différence entre le pain du boulanger et le pain qu'on fait à la maison. C'est que le pain du boulanger, tous les pains se ressemblent. Le pain du boulanger, puisque le boulanger les fait avec une forme, donc tous les pains se ressemblent, ils ont tous la même forme. On parle des pains briochés. Donc tous les pains ont la même forme. Donc quand j'ai acheté un pain chez le boulanger, je l'ai perdu. Il n'y a aucun signe distinctif. Bon, disons que je comptais le retrouver.
Il était rond avec un trou au milieu.
Par contre, quand c'est un pain que j'ai fait à la maison, d'accord, il est identifiable. Même si, encore une fois, maintenant après on verra dans la Gemara, dans quel cas on va estimer que la personne a perdu l'espoir. Mais bon, on dit que pendant un certain temps, la personne ne perd pas l'espoir. Et c'est possible que j'ai perdu un sac avec 15 ralotes que j'ai fait à la maison, et je me dis, bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va... Parce qu'il y a une mitzvah, il y a une mitzvah de l'errant. Macharozot, shel dagim. Pareil, des colliers de poissons. D'accord ?
Belle époque, ça.
Des colliers de poissons, donc c'est pareil, c'est des poissons qui sont...
Séchés, probablement,
exactement. Ils sont attachés avec un fût. Vachatichot, shel bassar, des morceaux de viande.
Pourtant, la nourriture, elle est périssable, hein.
Oui, bon,
mais le pain, par exemple.
C'est pas le jour même.
Il va passer une journée.
Ah, c'est bagel.
Non, c'est aujourd'hui qu'on garde pas le pain plus qu'un jour. À l'époque, les gens gardaient le pain une semaine.
Hein, c'était très longtemps le pain.
Bon, alors, vachatichot shel bassar. Vous prenez de la pita, par exemple. Ça tient longtemps, hein, très longtemps. C'est une semaine, sans problème.
Tu manges ça même rassis.
Vachatichot shel bassar. Des morceaux de viande. Et chez le boucher, il a acheté de la viande et il a perdu. Parce qu'il y a un signe distinctif sur la viande. Il n'y a pas de signe distinctif. Vegiz et Tsemer, Alekouchi, Mimdinatam.
Voilà.
Des tontes de laine qui sont prises Mimdinatam. Ça veut dire quoi Mimdinatam ? Ça veut dire. Parce que la tonte de laine, une fois qu'on l'a pris, après on peut la travailler et elle prend une certaine forme. Et là, dans ce cas-là, il y a un signe distinctif, puisqu'elle a pris, elle va prendre une certaine forme. Et moi, la forme que j'ai fait, c'est pas la même forme que notre personne aurait fait. Mais la tonte de laine, quand je la prends, qu'elle vient de sortir, enfin, je viens de la tondre, elle n'a aucun signe distinctif. C'est une tonte de laine, point à la ligne.
L'importation.
D'accord ? Va Anitse Pishtan. Anitse Pishtan, ça veut dire des... comment traduire ça ? Anitse Pishtan, ça veut dire des...
Des faisceaux de laine.
Des faisceaux, ah oui, bon, c'est des faisceaux. Voilà, Rachid explique, c'est des... Ça veut dire des... Comment dire ça ? Ouais, moi, disons que c'est des faisceaux. C'est pas des faisceaux, c'est des tas de lin. D'accord ? Ça veut dire du lin rassemblé. Bon, des faisceaux, peut-être ça s'appelle comme ça en français.
Non, mais c'est très facile, c'est-à-dire que... Un paquet de fils qui
oui,
sont
oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je savais pas que ça s'appelait des fils.
Comme une gerbe de morceaux de lin.
Alors, Rachid explique, ça s'appelle. Donc, Rachid explique, c'est quoi ? C'était donc c'était du lin qu'on avait rassemblé, mais c'est du lin qui n'est pas tissé. Attention.
Et encore brut alors.
Du lin qui est brut. Ou le chenot chez l'argaman, D'accord. Et des langues, chalar gaman, de pourpre. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français, ça s'appelle des langues de pourpre. Bon. Tout ça, arelou shelo. Tout cela, tous les exemples qu'on m'a donné, donc encore une fois, la Gemara expliquera pourquoi tous ces exemples-là, parce qu'a priori on a l'impression que c'est une répétition, c'est le même concept. Arelou shelo.
Pourquoi il n'a pas un...
Arelou shelo, ils sont à lui. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. C'est seulement dans la deuxième Mishnah de ce chapitre qu'on expliquera les cas dans lesquels c'est pas à moi. Pour l'instant, dans notre Mishnah, on parle seulement des cas dans lesquels c'est à moi. Donc,
il propose qu'on peut se
on va dire que le principe qu'il y avait dans tous les cas qu'on a dit ici, c'est pas, bien sûr, c'est non seulement que j'ai pas besoin de les annoncer, que je les ai trouvés, mais je peux les approprier. Le point commun qu'il y avait entre tous les cas qu'on a dit ici, c'est que c'est des choses sur lesquelles il n'y a pas de signe distinctif. C'est du standard.
Pourquoi ne pas le résumer de la sorte
Alors j'ai dit que la Gemara l'expliquait.
Non mais on peut
attendre. Arelou Shelo, donc Arelou Shelo, ils sont à lui. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non. Il dit Kol Shiyosh Bo Shinui, Chayav Leachi. Il dit non. Il dit que même si c'est quelque chose qui rentre dans les catégories qu'on vient de dire, mais si c'est quelque chose qui a un chinouï, ça veut dire que tu sens qu'il y a un changement de l'habitude. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. J'avais un pain brioché. D'accord? Un pain brioché, vous savez, le pain brioché avec des ronds pour couper en morceaux comme ça. Bon. Maintenant, moi je trouve un pain brioché, mais il y a un morceau qui a déjà été enlevé. Il a déjà mangé un morceau du pain. Donc ça change de l'habitude. C'est pas un pain normal, c'est un pain avec un morceau enlevé. D'accord? Donc Rabbi Meir dit, même dans toutes ces variantes qu'on vient de dire, s'il y a un changement de l'habitude, si c'est pas du standard, il y a un truc qui change, Chayav Leachiz, celui qui trouve cet objet-là, a l'obligation, Leachiz, ça veut dire de proclamer et d'annoncer qu'il les a trouvés. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. De Rabbi Yehuda, pardon. Ketzad, Matsaïgoul, s'il a trouvé une rondelle, quand il y a une rondelle, c'est une rondelle de fixèche. Donc comme on a expliqué, un collier de fixèche. Ou Betoro Cheres. Et dans cette rondelle-là, à part le fixèche, il y avait aussi de l'argile. Je sais pas. On ne sait pas pourquoi la personne l'a mis, mais il a mis de l'argile. Donc, c'est un signe distinctif. Alors, c'est pas du standard. Ou bien, kikar. S'il a trouvé kikar, ça veut dire donc un morceau, un pain. Ou vetechoy ou maot. Et dans le pain, il y avait de l'argent. Et il a caché son fric je sais pas, les gens qui disaient ça à l'époque. Il a caché son argent dans le pain. Donc, c'est pas standard. Le pain est standard. Mais le cas n'est pas standard. Vous voyez la définition. Ça veut dire, la chose qu'on a trouvée, c'est du standard, mais il y a un truc qui fait que c'est bizarre. Et comme l'histoire en Israël, une fois, il y a quelqu'un qui a demandé à son voisin, il a dit, bon, je vais partir en vacances. Garde-moi la maison. Bon, il garde la maison, et il lui donne les clés et tout. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à la maison, il y a le courant qui a sauté. Et donc, le courant a sauté, tout ce qui avait dans le congélateur commençait à pourrir. Et le voisin,
c'est horrible.
Le voisin sentait des mauvaises odeurs de chez son voisin qui était parti. Donc il rentre à la maison. Et il voit que le courant a sauté. Bon, il rallume le courant. Il voit qu'il sent très très fort. Il s'approche du congélateur. Il voit qu'il y avait, il y avait plein de choses. C'était pourri, des poulets, etc. Comme bon voisin, il s'est dit, le pauvre, il va revenir, tout va être pourri. Donc il a tout pris, tout ce qu'il y avait dans le congélateur, il l'a jeté. Un bon voisin, il a jeté, il a nettoyé le congélateur et tout.
Le gardien final.
Il revient. Des secondes.
Il y avait une passe.
Il revient. Non, le voisin revient. Et il découvre que son congélateur est vide. Et il attaque au tribunal. Pourquoi il attaque au tribunal? Écoutez bien.
Dans les poulets,
alors, le gars avait caché tout son argent.
Oh.
Et c'est venu devant le Beddin. Il a dit, moi je t'ai pas demandé de jeter mes poulets.
T'aurais pu remettre au congé. Hein?
Je t'ai pas demandé, je t'ai rien demandé. Ouais, fallait m'appeler.
Au moins ils vont savoir quelle est la quantité d'argent qu'il y a.
D'accord.
Bon. Le mec va dire, je vais cacher machin.
Alors dans les faits, qu'est-ce qu'a dit le Beddin? Qu'est-ce qu'a dit le Beddin? Écoutez bien. Le Beddin a dit que puisque la personne qui a gardé c'était un chômeur chinam, c'est-à-dire c'était un gardien
gratuit,
et que le propriétaire, bien entendu, ne lui a pas dit que dans les poulets il y avait de l'argent. Donc, il n'a rien à payer. C'est intéressant, c'est des cas intéressants. Donc voilà, quand on voit ici Kikar au Betochomaot, un morceau de pain dans lequel il y avait de l'argent, vous voyez que ça peut exister encore aujourd'hui. C'est une histoire vraie.
En moralité, ne mettez pas votre pognon dans les poules.
Aujourd'hui, qui s'est fait mettre son argent dans les poules?
Où il y a une histoire qui s'est passée. Ah, tiens, il y a encore une histoire qui s'est passée tout récemment chez les Goyim. Une histoire tout récente qui s'est passée chez les Goyim. Apparemment, il y a une série télévisée, je sais pas ce que c'est, en Angleterre, dans laquelle il y a un truc que je crois que c'est des amis ou de la famille qui font un coup, qui rentrent chez vous, ils rentrent par exemple en disant je fais un coup avec la télé, je vais chez mon père et on lui retape la maison en neuf. Et c'est un truc, et pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a des caméras cachées à l'intérieur de la maison, je crois, qui voient la réaction de la personne quand il rentre dans sa maison. Bon. Et il y a un truc qui s'était passé, je crois que c'est en Angleterre. Il y avait des gens qui avaient caché leur argent dans les matelas.
Oh là 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 là.
Et bien entendu, quand ils ont retapé la maison, ils ont tout jeté. Ben, ils les ont attaqués en justice.
Andy, si vous le permettez, j'ai une histoire toute fraîche concernant ce problème-là.
Fraîche.
Elle date d'hier. Là, je garde après. Un monsieur me raconte, une femme, une Goya, elle achète un immeuble. Et pour le retaper les appartements, etc. Et dans les caves, il y avait plein de meubles, plein de vieilleries. Et elle dit à tout le monde, prenez, servez-vous, débarrassez-vous, tout ce que vous allez trouver. Donc chacun, il prend, il ramasse et tout ça. Et le monsieur en question, il prend plusieurs meubles comme ça, et il les met sur un diable comme ça. Et il les enlève et
c'est lourd.
il fait son travail comme ça et donc il s'en va. Et d'un coup la commode elle tombe et en tombant boum. Non, alors ce qui se passait c'est que lui quand il a tiré les tiroirs comme ça pour voir ce que c'était le style et tout ça, il y en a un qui était bloqué qui voulait pas s'ouvrir. Bon, il a pas insisté, tout, il a dit c'est pas grave. Et en roulant comme ça avec son diable, il marche et d'un coup le meuble il tombe et boum, il tombe sur le tiroir, tac, il s'ouvre. Et d'un coup, c'est rempli de billes d'or et de pièces. C'est un trésor.
La femme a dit, maintenant c'est à moi.
Ouais. Non.
Il lui a même pas dit.
Tout à fait. Bien sûr.
Il a dit, l'abandonner.
Son mazal. Il a tout gardé tout.
Enfin, c'est après, un noir, on m'avait dit.
Non.
C'est un noir.
Non, c'est ça.
C'est un juif.
C'est un juif de chez nous.
Tu peux donner son adresse.
Et après, il paraît que chaque louis d'or, il avait sa cote. À l'époque, c'était 1200 francs la pièce. C'était une somme, c'était un trésor. Donc, est-ce que dans ce cas-là, vis-à-vis de la Goya...
Non, elle a abandonné. Elle a donné.
C'est pas qu'elle soit pas au courant. C'est plus compliqué que ça. Elle a acheté l'immeuble, elle est propriétaire de tout ce qui appartient.
Oui, mais elle a abandonné.
Maintenant, elle a peut-être abandonné.
Elle a abandonné.
C'est pas qu'elle soit pas au courant. C'est pas au courant, là, quand même. S'il avait pris comme ça, sans qu'elle soit au courant, il se doit de lui redonner. Mais là, c'est parce qu'effectivement, elle a abandonné. Elle a dit, prenez.
Bon, alors on y va. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, Kol klean pourya, en chayav l'ari. Lui, il rajoute Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que tous les ustensiles qui sont an pourya, c'est quoi un ustensile qui est an pourya? Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Mara va expliquer. D'accord? Il y a des ustensiles qui s'appellent an pourya. Ça vient du grec. Hein, ouais. Je vous dis déjà un indice, mais...
Ouais, il dit un truc d'ailleurs.
On ne sait pas ce que c'est. Oui, le Stenzel, il dit déjà ce que c'est. Mais bon, ouais. L'Agmara dira plus tard.
Non,
le Stenzel, c'est l'Agmara, j'ai vu tout à l'heure, il dit déjà ce que c'est ici.
Mais bon. Aussi, il dit ce que c'est.
Un Poria ?
Oui. Il fait qu'il s'agit d'ustensiles qui sont tellement nouveaux que le propriétaire ne s'est pas encore familiarisé avec eux.
Alors on verra. De toute façon, on verra tout ça dans l'Agmara. Donc, Kol Klan Poria, En Chayav Leachiz, il n'a pas l'obligation, Leachiz, de proclamer. Donc, on verra de toute façon tout ça dans l'Agmara.
Trois avis alors.
Mais je voudrais...
Alors, c'est pas forcément trois avis contradictoires. Donc je conclue juste la Mishnah, ouais. Ça vous dérange pas. Ouais. Donc dans la Mishnah était séparée en trois. Première partie de la Mishnah, on a donné plusieurs cas dans lesquels apparemment il y avait un signe distinctif. Il n'y a pas de signe distinctif. D'accord, c'est-à-dire des choses standards. On a dit que on n'a pas l'obligation de proclamer et on peut se les approprier. Ça c'est une première chose. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah, on a eu Rabbi Yehuda qui n'était pas d'accord, il a rajouté. Il a dit que si un de ces ustensiles qu'on vient de citer avait un signe, pas distinctif, mais
inhabituel.
Quelque chose inhabituel, voilà, par exemple, quelqu'un qui a eu de l'argent dans un pain, dans ce cas-là, il faut proclamer. Et Rabbi Shimon ben Elazar, il apprend que Klé An Poria, tous les ustensiles An Poria, Gemara expliquera ce que c'est, bon, il y a plusieurs avis, on n'a pas l'obligation de proclamer. Pas directement à la Gemara. Oui.
Ma question, c'est que Rabbi Meir, il n'est pas forcément
d'accord.
Il n'est pas forcément d'accord.
Vous avez raison. Non, il n'est pas forcément.
Il parle d'autre chose.
C'est pour ça qu'on a la Guémara. Ouais. C'est pour ça qu'on a la Guémara. Matz aperot mefuzarim. La Gemara pose la question et dit, tu m'as dit s'il a trouvé des fruits qui étaient éparpillés. Première question qui saute aux yeux, enfin qui devrait sauter aux yeux. Quand tu me dis des fruits éparpillés, qu'est-ce que tu considères comme des fruits éparpillés? Vekama. À combien? Combien? Qu'est-ce que, à partir de combien tu considères que c'est éparpillé? Quand j'ai dit à partir de combien, ça veut dire combien de fruits au mètre carré, par exemple, on aurait dit, à partir de combien de fruits au mètre carré tu considères que c'est éparpillé? Puisque c'est la seule manière de calculer. Comme on verra qu'il y a d'autres techniques pour calculer aussi, mais bon, pour l'instant, la Gemara pense que la seule manière de calculer, c'est de voir combien sont éparpillés au mètre carré. À partir de quand tu considères que des fruits sont éparpillés? Si les fruits ne sont pas éparpillés, on considère que la personne a projeté son cajou ou ses fruits et qu'on compte venir le rechercher. Comme ils sont éparpillés, tu dis que bon, comme ils sont éparpillés, le gars il ne veut pas se prendre la tête, il dit bon allez, je laisse les fruits. Alors à partir de combien tu considères que les fruits sont éparpillés?
Et comment ils sont éparpillés aussi?
Ah, très bien, bonne question. Et comment ils sont éparpillés? La Gemara va parler plus.
Ils sont pas rangés par
Ama, bien.
Ça me paraît pas perdu.
Bonne question, la Gemara va poser votre question tout de suite. Ama Rabitrak, Rabitrak a répondu. Première réponse de Rabbi Yitzhak, il dit cave b'arba amot. Il dit, il faut un cave. Donc un cave, c'est l'équivalent de 24 œufs. Donc c'est l'équivalent à peu près de 1 litre 4. Je ne sais pas combien ça fait en kilo, c'est la même chose en kilo?
D'accord.
Un peu plus, non?
Non, le poids de l'œuf, c'est là.
D'accord. Donc 1 litre 4, ça fait combien en kilo? Pareil, 1 kilo 4? Très bien. Donc 1 kilo 4. 1 kilo 4 qui doit être éparpillé, la mesure c'est 1 kilo 4 qui est éparpillé en 4 amot. 4 amotes, c'est à peu près 2 mètres. D'accord?
Ah oui,
c'est oui. 1 kg 4, à peu près en 2 mètres. Ça veut dire combien en mètres carrés?
Hein?
Combien en mètres carrés?
Sur 2 mètres carrés?
Non. Si je dis 1 kg 4 pour 2 mètres carrés, ça veut dire combien en mètres carrés? Combien de kilos au mètre carré?
La moitié.
400 grammes en
700.
Mètre carré.
700.
La moitié. Si je dis 1 kg 4 pour 2 mètres carrés, donc ça veut dire, si
c'est
on parle...
C'est 1 mètre carré, là, c'est 4 mètres carrés.
Non, arba amot, c'est 2 mètres carrés. Une amot, c'est 50 cm.
Il a dit un truc de 2 mètres sur 2 mètres.
Non, il a dit 4 amot, ça veut dire 2 mètres sur 2 mètres.
Oui, il a raison, ça fait 4 mètres carrés. Ah. C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. 2 mètres sur 2 mètres, ça fait bien 4 mètres carrés. Il a entièrement raison, c'est divisé par 4.
Donc on voit les gens qui travaillent. Hein. Donc ça fait combien au mètre carré?
Et on calcule par 4.
Ça fait 350 grammes après.
Environ 400.
Je fais 350 grammes.
375.
425 grammes, si
350.
Bon. Ah ouais.
On va pas, compliquer la vie.
350.
Donc 350 grammes au mètre carré. Alors, là, vous avez vu qu'on n'a pas du tout touché, on n'est même pas rentré dans le concept. Alors, la Gemara expliquera après que quand on parle de fruits ici, on parle pas de, parce que ouais, les fruits, bon, ça veut dire rien dire, 350 grammes, une pastèque, ça pèse plus lourd que ça. C'est pas une mesure de me parler comme ça. Il faut me dire quel fruit tu parles. La Gemara expliquera par la suite que quand on parle de fruits ici, en vérité, on parle pas de fruits. On parle d'épis de blé, de graines par exemple. Des graines. C'est quand on parle de fruits, dans le langage de la Mishnah, c'est ça ce que ça veut dire.
Attends, là, c'est pas fait des graines.
Donc, si. Attendez.
C'est pas que des germes. Parce que c'est pas ta
des graines, des graines, des graines. Écoutez bien. Des graines. 350 grammes de graines par mètre carré. D'accord?
Oui, c'est ça. Donc, 350 grammes de graines par mètre
carré. 350 grammes de graines par mètre carré, cave vers Bahamot. À partir de là, c'est considéré que c'est éparpillé. Moins que ça, d'accord? Si j'ai par exemple 400 grammes par mètre carré, là c'est pas considéré comme éparpillé. C'est considéré que la personne va venir la rechercher.
Si j'ai 100 grammes.
C'est comme ça que Rabbi Yitzhak a dit au Beit HaMidrash. Bien sûr, si j'ai 100 grammes dans un mètre carré, pareil, c'est considéré comme éparpillé.
Encore plus.
Alors, la Gemara pose la question, elle dit, attends, on comprend pas de quoi tu parles, Rabbi Yitzhak. Elle dit, Echidem, de quel cas tu parles? Ibeder Nefila, si tu me dis que les fruits, on les a trouvés, les fruits donc ou la récolte, comme la Gemara dira, ça parle Beder Nefila, ça veut dire que. Ça se voit, comme ce que vous avez dit, M. Bissou, tout à l'heure, ça se voit qu'ils sont tombés. Ça, on voit, quand la manière comment c'est posé par terre, on peut voir, est-ce que ça a été posé, ou est-ce que c'est tombé. D'accord? On peut voir. Des fois, on peut pas voir, mais en général, on peut voir, ça se voit. D'accord? Quand c'est tombé, on voit que c'est éparpillé, c'est pas organisé. Quand c'est posé, on voit que c'est posé. Alors, je ne comprends pas. Si tu me dis que ça se voit que c'est tombé, dans ce cas-là, affilou tout va, ami. Même s'il y a plus que 350 grammes par mètre carré. Qu'est-ce que ça change? Puisque de toutes les façons c'est tombé, donc la personne a abandonné. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a un signe distinctif sur des graines de blé? Sur des fruits? Il n'y a pas de signe distinctif. S'il n'y a pas de signe distinctif. Donc même si j'ai 1 kilo par mètre carré, qu'est-ce que ça change? De toutes les façons, si ça se voit que c'est tombé, que ça a abandonné, que c'est tombé, donc c'est abandonné. Donc c'est pas de ça qu'on parle. C'est i, derrière i noir, si, tu vas me dire d'un autre côté que non, c'est pas tombé. Parce que si c'est tombé, on a dit que c'est clair que, de toutes les façons, ça m'en donnait. Si tu vas me dire que c'est des rayons noirs, ça se voit que c'est bien posé, je vois que c'est bien posé. Afilou baser me'achin amilo. Même moins que ça. C'est-à-dire même si j'ai 100, même si j'ai 100 grammes par mètre carré, si ça se voit que c'est bien posé, et bien si ça se voit que c'est bien posé, ça veut dire que le propriétaire ne les a pas abandonnés. Vous voyez comment la Gemara tout de suite montre que, a priori, ce que Rabbi Yitzhak a dit ne marche pas. Rabbi Yitzhak, tu m'as donné une mesure, mais une mesure qui ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu m'as donné une mesure par mètre carré. Je dis, mais attends, où mètre carré? Il y a un problème ici. Quoi qu'il en soit. Où tu ailles. Si tu me dis que c'est... Si tu me dis que les fruits, ça se voit qu'ils sont tombés, dans ce cas-là, même si c'était 1 kilo, même si c'était 10 kilos par mètre carré, ça se voit qu'ils sont tombés, donc le propriétaire les a abandonnés. Si tu vas me dire que c'est... Si tu vas me dire que ça se voit que c'est bien posé, c'est bien organisé, bien rangé, dans ce cas-là, même si c'est moins que 350 grammes, même si c'est 100 grammes par mètre carré, on dira que la personne ne les a pas abandonnés, puisque c'est bien posé. Si c'est bien posé, c'est-à-dire qu'ils comptent les rechercher. Donc, il nous manque un élément. Quand Rabbi Yitzhak a dit son histoire de mètre carré, il manque un élément. Il devait parler d'un cas précis. Un autre élément qui lui manque. C'est pour ça que on a la Gemara qui répond, qui explique. Amar Avukva Bachama. Avukva, le fils de Chama a répondu. Il a dit non. Je vais t'expliquer ce que Rabbi Yitzhak voulait dire. En vérité, notre Mishnah, de quoi elle parle? Elle ne parle pas d'une perte standard. Elle ne parle pas d'une perte standard qu'on a perdue dans la rue comme ça, qu'on a perdu dans la rue comme ça des fruits, ou comme on dira tout de suite, des graines. Parce que tu as raison dans ce cas-là. On n'a qu'à voir comment c'est posé. On ne parle pas de ça. On parle de Martnashta de Bedare. C'est quoi Martnashta de Bedare? On parle pendant le moment dans lequel on ramasse les récoltes des granges. D'accord? Et alors? Alors, on parle autour des granges. Autour des granges. D'accord? Donc, vous savez, quand les propriétaires y prennent, à côté de la grange, ils mettent leur camion, ou je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, ils avaient une charrette. Et à côté de la grange, il y a comme ça toujours quand ils s'en vont, il reste toujours des graines, des épis qui sont posés par terre. Et là, la Mishnah parle de l'autre cas. Et alors, puisqu'on parle de l'autre cas, c'est plus la même chose. On n'a plus la même question qu'on a dit avant, qu'on va voir comment ils sont posés. Il n'y a plus la question comment ils sont posés, comment ils sont pas posés. Puisque là, ils sont pas posés. D'un côté, ils sont pas posés. Mais d'un autre côté, puisque c'est à proximité de la grange, vous voyez le problème. Qu'est-ce qu'on a posé comme question tout à l'heure? On a dit, je comprends pas. S'ils sont posés dans la rue, s'ils sont bien rangés, alors ils comptent les reprendre. S'ils sont pas rangés, ils sont jetés par terre, ça veut dire qu'il les a abandonnés, il les a fait tomber. Je dis non. On parle que c'est à proximité de la grange. Quand c'est à proximité de la grange, même si c'est tombé, et c'est éparpillé, mais le propriétaire de la grange, c'est possible qu'il compte repasser. Ça arrive, ça. Il fait un premier passage, il amène la majorité de la marchandise, après il revient pour voir ce qui a pu tomber. Possible? D'accord? Possible, mais des fois il y a beaucoup qui tombent. Possible. Donc c'est là que la question se pose. D'accord. Et c'est là, donc il dit Ravukva Bahama, c'est de ce cas que parle notre Mishnah. Vous voyez comment c'est un Gemara, on est à côté de la plaque.
On
en
a un problème même dans ce cas-là.
Attendez. Et alors, il explique pourquoi. Et alors, il dit comme ça. Il dit que, qu'est-ce qui est dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Yitzhak a donné la mesure de un cave par Arba Amot, ça veut dire, combien on a dit, combien en mètre carré, 350 grammes par mètre carré, il dit comme ça. Il dit, parce que la personne, quand il a chargé, quand il est parti, il a remarqué qu'il restait par terre. Il s'est dit, bon, c'est pas grave, je vais revenir.
Trop peu.
Ah ouais, exactement. Ve Arba, cave Arba Amot, une fichi chayou, si c'est 350 grammes par mètre carré, que c'est une trop grande galère pour les ramasser. Car ça s'est trop éparpillé, il n'a pas la force pour les ramasser. Rappelez-vous, c'est plus des fruits maintenant. C'est plus des fruits. C'est la grange, ça veut dire c'est des graines.
C'est avec la terre.
C'est galère. Il n'a pas la force pour ça.
Il les ramasse.
Donc quand c'est au minimum 350 grammes par mètre, quand c'est au maximum 350 grammes par mètre carré, il abandonne. C'est-à-dire, dès qu'il a vu, il laisse tomber. Je ne vais pas me prendre la tête, il faut le ramasser un par un, etc. Donc, que la fatigue est beaucoup, ça veut dire que ramasser un par un, etc., il peut pas venir avec une pelle et tout ramasser, parce que c'est un par un. Là, dans ce cas-là, l'otarachinish, une personne ne se fatigue pas, velo adar ati veshakil leu, et il ne va pas revenir pour les reprendre. D'accord? Ça veut dire que lui, quand il part encore une fois, il se rend compte, il se retourne, il voit, il dit, bon, allez, c'est pas grave, laisse tomber, celui qui les prend, il les prend. D'accord? Donc, automatiquement, afkorem afkar leu, dans sa tête, il les a déjà abandonné. Puisqu'on estime, on évalue qu'il les a abandonnés, donc celui qui les trouve peut les prendre. Mm-hmm. Très bien. Mais Betir Meachi, moins que ça. Ça veut dire quoi, moins que ça? Ça veut dire que s'il y a par exemple 350 grammes dans un demi-mètre carré, que là la fatigue est moins grande pour les ramasser. C'est-à-dire qu'avec une main, avec une poignée de main, tu ramasses, au lieu de ramasser deux épis, tu ramasses 10 épis. Donc la fatigue est moins grande. Là, dans ce cas-là, il veut se prendre la tête pour ça. Tarar va darativ shakileu. Il est prêt à se fatiguer. Le propriétaire est prêt à se fatiguer. Même si dans les faits, il ne le fera pas. C'est possible qu'après, il rentrera chez lui. Il sera fatigué, il dit bon, c'est pas grave, allez, tant pis. Vous savez, des fois, on veut revenir, mais bon, j'y allais, c'est pas grave, tant pis, celui qui les prend, il les prend. C'est possible. Mais c'est possible que non. C'est possible qu'il compte revenir les chercher. Donc les Khachamim m'ont donné une mesure. Et voilà. Jusqu'à 350 grammes par mètre carré, d'accord, on estime que la personne ne va pas se prendre la tête. Mais à partir de 350 grammes par mètre carré, s'il y a par exemple 400 grammes, 500 grammes par mètre carré, 1 kg par mètre carré, là on estime que la personne voudra se prendre la tête pour revenir. Parce que même s'il devrait les ramasser à la main, mais avec une poignée, on ne ramasse pas deux graines. On ramasse 20 graines. Donc c'est plus la même chose. Donc dans sa tête, il ne les a pas abandonnés. Et là, c'est un très intéressant dans la Gemara, parce qu'en vérité, on fait de l'analyse. On fait de l'analyse ici pour savoir à quel moment la personne a abandonné.
Parce qu'on ne sait pas en réalité. Exactement. Si la personne est très riche et pas abandonné quelque chose.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On n'a aucune manière de savoir est-ce que la personne a abandonné ou pas. Aucune manière.
Ben oui, si la personne est très riche, elle peut se donc, dire, pour moi, c'est rien, donc je l'abandonne. Si la personne est...
Mais alors, système de timing aussi.
Ah, très bien, bonne question. D'abord, il n'y a pas que le problème de timing, il y a aussi une autre question que vous devez poser. Si la grange, je sais à qui elle appartient. Pourquoi, hein, dans ce cas-là, je ne ramasse pas ce qui est posé par terre et je le ramène à son propriétaire? Je sais à qui ça appartient. La réponse à toutes ces questions, c'est que si je veux le faire, tant mieux. Je serai un sadique, il n'y a pas de problème. Mais là, on voit, halakhiquement parlant, qu'est-ce que j'ai l'obligation de faire? Halakhiquement parlant, dès qu'on estime que la personne a abandonné, je peux me servir. D'accord? Et donc, cela, il n'y a ni timing, ni rien. Il n'y a rien qui joue, c'est fini. Si la personne est déjà partie, on a vu, d'accord? Je l'ai vu de loin, j'ai vu qu'il a rempli son camion, et il reste un peu maintenant, c'est éparpillé. Si c'est au maximum 350 grammes par mètre carré, dans ce cas-là, on estime que la personne abandonne. Ce qui se dit, bon, 350 grammes par mètre carré, c'est trop galin pour ramasser. Je le laisse. D'accord? Mais si c'est plus que ça, s'il y a plus que 350 grammes par mètre carré, donc c'est plus concentré, donc il y a plus de marchandises, là, les Khachamim m'expliquent que la personne n'abandonne pas. Bon. D'accord? Donc là, on comprend mieux. On comprend mieux ce que Rav Yitzhak a voulu dire. La mesure que Rav Yitzhak a voulu donner, on parle d'un cas précis. Bon. Très bien, on a compris. Donc juste pour résumer, de quel cas on parle dans la Mishnah quand on parlait de fruits? En vérité, fruits, il faut expliquer, comme la Gemara explique maintenant, qu'on ne parle pas de fruits, on parle de récolte. Mais quelqu'un en parlait, on parle d'un cas très particulier, de la récolte qu'on a trouvée à côté de la grange, et qu'est-ce qu'a donné comme mesure Rav Yitzhak? Rav Yitzhak a dit que la mesure qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas à son époque, peut-être à notre époque ça va changer, mais à son époque, à Rav Yitzhak, c'était 350 grammes par mètre carré. S'il y a plus que 350 grammes par mètre carré, la personne n'a pas abandonné. Très bien. Maintenant la Gemara pose des questions, vous avez des dessins en bas, ça peut vous aider. Bah, et Rabbi Irmiya. Rabbi Irmiya a posé, donc les dessins peuvent nous aider pour ce qu'on va dire tout de suite. Bah, Rabbi Irmiya a posé une question. Il a posé une question comme ça. En vérité, Rabbi Irmiya va poser 4 questions ici. D'accord? Mais 4 questions qui sont, alors, il y a, dans les commentaires, voilà, j'ai étudié ça quand j'ai étudié ça hier soir, il y a des commentaires qui veulent montrer qu'il y a un ridouche dans chacun des cas, des quatre questions qu'on va poser. Mais a priori, la majorité des commentaires s'accordent pour dire que les quatre questions ont la même logique derrière. Mais bon, il a posé juste 4 questions pour montrer qu'il y a 4 questions qui peuvent venir à l'esprit. D'accord? Regardez là, encore une fois l'analyse. 4 questions. Dis, attends. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit 350 grammes par mètre carré. Dans le langage de la Gemara, on va appeler ça un kav par arba amot. Ça veut dire 1,4 kg pour 2 mètres carrés. Très bien. Mais écoutez bien la question qu'il a posée. 4 questions il va poser. Première question. S'il a trouvé Khatsikav Bishtehamot, si j'ai trouvé un demi-cave, c'est-à-dire 700 grammes, Bishtehamot, dans 1 mètre carré. D'accord? Alors, c'est pas 1 mètre carré, 2 mètres carrés, exactement. Non, c'est pas...
Si, puisque c'était 4 mètres carrés. Alors, maintenant, c'est la moitié du produit dans la moitié de la surface. C'est ça la question.
Ouais. Oui, d'accord, oui. En réalité, c'est ça. En français, ça ne s'appelle pas 2 mètres carrés, ça s'appelle 4 mètres carrés, c'est ça?
Oui, mais ça devient 2 mètres carrés.
2 mètres carrés. À propos du produit, sur la moitié de la surface, la moitié du produit.
Non, avant j'avais 2 mètres sur 2 mètres.
Maintenant j'ai 4 mètres carrés.
Voilà.
Maintenant j'ai 2 mètres sur 1 mètre.
Maintenant j'ai 2 mètres sur 1 mètre.
C'est 2 mètres carrés.
Donc c'est 2 mètres carrés.
Ou 1 mètre sur 1 mètre, ça fait 2 mètres carrés.
Non,
1 mètre carré. Bon, on avait quoi les enfants?
1 mètre carré.
Pratique, non, parce que dans le langage de la Gemara, ça n'existe pas, les trucs carrés.
On a un beau dessin, là.
Voilà.
Comment on dit la Gemara?
C'est pour ça que vous avez le dessin en bas. En bas, vous avez un dessin.
C'est comme cave, hein, je ne veux pas relever tout à l'heure, mais cave, c'est des litres, c'est pas des kilos.
Cave, c'est un litre, oui.
Les kilos, c'est une autre mesure. L'unité de mesure du litre, c'est une autre unité de mesure que celui du kilo.
C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure.
Je voulais pas relever, mais c'est deux choses différentes. Un litre, c'est une unité de volume. Non, pas de poids.
C'est pour ça que je posais la question. Bon,
on a dit que la densité de l'œuf, c'est sensiblement la même chose.
Et un litre, c'est 10 cm sur 10 cm sur 10 cm en unité de...
Bon, moi, je vous dis, moi, en tout cas, la mesure que je vous ai parlé...
Oui, mais le poids de l'eau, c'est un gramme
centimètre.
On le comprend en kilo parce que c'est justement un litre d'eau, c'est un kilo.
Bien que tu le dis, non, parce que cave, c'est en litre.
C'est pour ça que je ne veux pas relever, mais cave, c'est un litre.
Donc, il faudrait chercher combien ça fait en kilo.
Ça dépend de l'eau, c'est un kilo.
Bon, d'accord.
Si c'est de l'eau, c'est un kilo.
Donc si c'est des graines de blé, c'est beaucoup plus.
C'est certainement, ça dépend, c'est peut-être plus, parce que les graines de blé, quand tu les mets,
très léger.
Il y a des trous entre les graines.
Voilà, donc ça, c'est beaucoup moins dense.
C'est beaucoup moins dense.
Ouais, donc ça doit être plus.
Non, si c'est moins dense, ça dépend.
Tu sais pas. Ok.
Je rentre à la maison, je prends
de la plume.
De la plume, c'est pour ça.
Un kilo de plume, c'est un kilo.
C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas un kilo, parce qu'un kilo c'est toujours un kilo, alors qu'un litre, ça peut être un litre de quelque chose, un litre d'autre chose, ça peut être des poids différents.
Il parlait de volume éparpillé.
Ouais, je parle pas de volume, hein, attendez, bon, ok. Alors, on va dire 100 kilos, c'est la même chose.
Oui, d'accord.
Ça revient au même, par rapport à ce qu'on a dit. Alors, il a posé une question, donc vous avez le dessin en bas. Vous avez le dessin qui est à la gauche de la page. D'accord.
En bas, en gauche, à droite.
En bas, à gauche.
Vous avez compris, ça veut dire que c'est à la moitié. Voilà, merci.
Non, c'est intéressant, non, parce que ça veut dire que c'est 4 et 2.
Oui, oui.
Ça, c'est bien. C'est dans ce cas. Ça représente, ça veut dire 2 mètres carrés. C'est, imaginons que, voilà, que j'ai 2 contre 2. Ça veut dire que ce n'est pas 4 mètres carrés, c'est 2 mètres sur 1 mètre. Voilà, 2 mètres sur 1 mètre. Donc, cave vers bamot. Pardon. Khatika bishtamot. S'il a trouvé un demi-cave dans 2 amot. Mahou, quel est le dîme? Alors, pourquoi il pose la question? Quand on pose la question dans la Gemara, on a une raison de poser la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux manières de répondre à cette question. Vous allez voir comment la Gemara va analyser. Elle va dire que, avec les éléments que tu m'as donnés, je peux donner deux réponses différentes. Je peux donner une réponse oui, je peux donner une réponse non. Comment? Écoutez bien. La Gemara, elle explique le doute. Je veux dire comme ça. Cave verba amot. Un cave dans 4 amot, ça veut dire dans 4 mètres carrés. 1 kilo 4 dans 4 mètres carrés. Ta amamai, la raison pourquoi tu m'as dit que les propriétaires l'ont abandonné. Mishum den fish tichayu. Est-ce qu'on va dire que c'est parce que... Pourquoi tu me dis que les propriétaires l'ont abandonné? Parce que la fatigue est grande. C'est-à-dire quoi la fatigue est grande? Ça veut dire que c'est galère de ramasser 4 mètres carrés.
Ça vaut pas le coup.
Ça vaut pas le coup. Donc, dans ce cas-là, Khatika Bishte Amot, quand c'est 2 mètres carrés, pas 4 mètres carrés, de l'on est fichier, la fatigue est moins grande.
Vous comprenez? Oui, il y a la moitié de cave aussi.
Très bien. Oui, il y a la moitié de cave, c'est vrai. Ah, très bien. Très bien. Ça, c'est la deuxième manière de voir les choses. Parce que, il faut bien comprendre ce qu'a dit la Gemara. La Gemara dit, j'ai deux manières de voir les choses. Quand ta mesure que tu m'as donnée, j'ai encore une faille, j'ai encore un problème dans ta mesure. Deux manières de voir la chose. D'un côté, je peux dire que la raison pour laquelle tu m'as donné 4 mètres carrés, c'est parce que moins que 4 mètres carrés, d'accord, 4 mètres carrés, c'est une galère, c'est une fatigue. C'est fatigant de ramasser 4 mètres carrés. Donc la personne, psychologiquement, dans sa tête, il dit, j'abandonne tous les 4 mètres carrés. Mais, écoutez bien, si en partant, il se rend compte qu'en vérité, c'est pas 4 mètres carrés, mais c'est que 2 mètres carrés, il dira, ah bon, ça va, 2 mètres carrés, c'est bon, je reviens, c'est pas grave, c'est pas grand-chose comme boulot, je reviendrai, je repasserai. D'accord. Bien entendu, de l'autre côté, on a la manière de voir la chose que M. Bishmut a dit. C'est-à-dire, non, au contraire. C'est que si je dis que pourquoi 4 mètres carrés, je ne peux pas revenir, parce que 1,4 kg par 4 mètres carrés, c'est pas important. Donc à plus forte raison
700 grammes.
Que 700 grammes, c'est pas important. Mais d'un autre côté, il y a une autre manière de voir les choses. Une autre manière de voir les choses. Il dit que non. Il dit que psychologiquement, une personne, quand il voit que c'est éparpillé comme ça partout, vous savez, c'est comme les... On voit que c'est éparpillé partout comme ça, il dit bon, allez, laisse tomber, je rentre chez moi et c'est tout. Mais quand il voit que c'est un petit peu, d'accord, là psychologiquement, il dit bon, un petit peu, je peux le faire. Ça va, je peux ramasser, c'est pas la fin du monde. Vous voyez comment on peut jouer des deux côtés. On le voit même quand on ramasse à la maison, voilà. Quand vous rentrez chez vous à la maison, quand c'est sale partout. Mais bon, c'est sale partout, bon.
Bonne nuit.
Ouais, bonne nuit, voilà, on fera demain matin. Mais quand c'est sale dans un coin, je dis bon, je le fais.
Un peu de courage.
Un peu de courage, on le fait. D'accord. Donc deux manières de voir la chose. C'est ça la question que Rabbi Yirmiyahu pose au Bata Midrash. Il y en a qui disent aussi que c'est quatre questions qui ont été posées dans quatre Bata Midrash différents, la question qu'on va dire. Donc là déjà on a la première question. Si on a 2 mètres carrés au lieu de 4 mètres carrés. D'accord. Donc, dans les mots de la Gemara.
Tu m'entends dehors avec lui.
Hein?
Non, non, la deuxième, elle est sympathique parce qu'elle se balance.
Kavarbamot. T'endors cette Gemara?
Non, c'est bien, elle est bien.
Enfin, nous, on s'endort. Hein.
Kavarbamot. C'est trop facile?
Non.
Ça te rappelle l'école?
C'est vrai. Hein? C'est...
Elle a un effet soporifique, je ne sais pas si tu
sais. T'as pas dormi la nuit?
Oui, c'est vrai. Ouais.
Hein? Peut-être quand tu vois que la Gemara avec les dessins, tu dis bon, tant qu'à faire, hein, tu vois 10 dessins, tu dis allez, on laisse tomber.
Non, non, c'est bien. C'est
comme le logique qu'on vient de dire. Hein?
J'aime pas, je trouve que c'est pas facile.
Alors, Kavarbamot, c'est ce qu'on étudiait à l'école quand on avait 7 ans, on a commencé par ça. Kavarbamot,
dans
ce chapitre, ouais. Je me rappelle encore le professeur qui nous faisait les dessins là, dans le tableau comme ça. Les... Ouais, enfin, on n'avait pas la Gemara comme ça.
Quand on avait 7 ans, t'as dû dire ça.
Ouais. Kavarbamot.
Et ça, quand on avait 7 ans.
Oui, parce qu'elle est accessible.
Tu comprends, pour Julien, que...
Non, au contraire. Non, je conclue le cas.
Alors. Moi, c'est l'accès 1,5.
Cave, barbamot. Je conclue le cas, ça ne vous dérange pas. Cave, barbamot. Quand c'est un cave, donc je recommence. Quand c'est un cave dans 4 amotes, quand c'était 4 mètres carrés, 1 kg par 4 mètres carrés, ta mamaï, la raison, encore une fois, l'analyse. La raison pourquoi tu m'as dit que les propriétaires l'abandonnent, mais je suis une fiche tirayou parce que la fatigue est grande. Donc psychologiquement, la personne abandonne. Mais d'un autre côté, khatikav, fiche tamot, quand c'est un demi-cave dans deux amot, ça veut dire quand c'est 700 grammes pour 2 mètres carrés, kevan delon fiche tirayou, plus que la fatigue n'est pas grande, donc psychologiquement, je n'abandonne pas. L'omafkarle, où je veux dire que là, je n'ai pas abandonné. D'un autre côté, je peux dire, odinma, vous reviserez dans la khazara, ou bien je peux dire, que Mishum de l'Ochashivé, je dis non. Que pourquoi j'abandonne 1,4 kg dans 4 mètres carrés, pas parce que c'est une galère, parce que c'est pas important. Parce que je me dis bon, allez, 1,4 kg dans 4 mètres carrés, c'est pas important, c'est rien. C'est rien du tout, c'est des gros chimes, comme ils disent, c'est rien. Donc là, dans ce cas-là, à plus forte raison que 700 grammes dans 2 mètres carrés, c'est aussi pas important. C'est encore moins important, c'est 700 grammes, je m'en fiche. Vachatika Vishtamot, Kevin de l'Ochashivé, Mafkarleou, ça aussi il abandonne. Donc ça c'est une première question que Rabbi Rami a posée. Vous avez une question, M. Guéniche?
Non, c'est pas une question. Ton exemple de tout à l'heure, il est, si je peux me permettre, il n'est pas bon. Quand tu as dit, Jacob a dit, on remet à demain.
Oui.
Est-ce que là, le gars, quand il le laisse, il remet, il peut, donc, tu ouvres encore
les une fois, vient tout
il peut revenir
non.
demain.
Quand
en disant, ce soir, je suis
non, quand, oui, vous avez raison. Fait. Quand je dis remet à demain, ça veut dire, c'est pour dire que psychologie, c'était juste pour un exemple pour expliquer. Oui, j'ai compris, vous avez raison. C'est juste pour... Là, c'est pas bon. S'il remet à demain, c'est pas abandonné.
Oui, ah oui. Il peut être fatigué aujourd'hui. Il dit, je le ferai demain, j'aurai
question.
Plus de force Razak. Pour ramasser le tout.
J'ai donné cet exemple-là seulement pour montrer que même dans notre vie, psychologiquement, on voit qu'il y a une différence quand il y a une grande quantité quand il y a une petite quantité. Mm-hmm. Ça veut dire, la Gemara nous montre ici que d'un côté, une grande quantité, ça nous encourage plus à revenir, mais d'un autre côté, une grande quantité, ça nous décourage à revenir. Donc on dit, bon, allez, dans ce cas-là, j'abandonne. D'accord. Vous voyez comment c'est... Les deux existent.
Dis-moi. Mais en vérité, là, ça dépend de l'exploitation dans laquelle ça se trouve, ça. Si tu prends une exploitation de 100 hectares, c'est sûr que le bonhomme, il ne va pas envoyer un tracteur pour aller chercher 3 kilos.
Bonne question.
Alors si c'est un pauvre qui a un petit terrain de 20 mètres carrés, le pauvre, il va revenir.
Là, la Gemara parle ici d'une exploitation standard. Ça veut dire à l'époque, tout le monde avait son champ. C'est pas comme aujourd'hui que... Aujourd'hui, on connaît. À l'époque, chacun avait son champ.
C'est pas compté pour quelqu'un qui
oui,
est...
Bien sûr, 100%.
Chacun qui était riche.
Non, pas chacun qui était riche.
C'est sûr qu'il va revenir le bonhomme. Même si
chacun avait un champ à l'époque. Ils avaient tous un champ.
À l'époque, les gens qui vivaient moyennement, d'accord.
Il y avait des grosses.
Les gens qui vivaient moyennement avaient tous un champ.
Le beau-père de...
Ils vivaient de ça.
De Rabbi...
Tous agriculteurs.
Akiva, etc.
C'est pour ça qu'on a des tas de halakhot autour de ça. Parce qu'à l'époque, les gens qui vivaient moyennement, pas les pauvres, les gens qui vivaient moyennement avaient un champ. Ils avaient un champ, c'était du standard. Parce qu'à l'époque, ça nous était très éparpillé. Donc les gens avaient un champ. Donc on parle d'un cas standard. Bien entendu, effectivement, dans votre cas.
Il y a des gens qui travaillent dans les champs, donc ils n'avaient pas de champ, eux.
Oui.
S'il y avait tous ceux qui ne travaillaient pas dans les champs.
Mais les gens qui vivaient moyennement avaient leur champ. Tout le monde avait leur champ. C'est pour ça qu'on a tellement de halakhot sur les champs. À l'époque, c'était standard d'avoir un champ. Comme à l'époque, c'était standard d'avoir une vache. C'est standard. Quelqu'un de moyen avait sa vache. C'est normal, c'est pas quelque chose de.
Comme la voiture et l'appartement aujourd'hui.
Donc il fallait qu'on ait une vache.
Me dis,
quand tu fais une blague,
la même chose.
Deux
manières de voir les choses.
La sécher, la fumée, la.
Là, c'est la question que la Gemara va poser. Hein? Ariel lui pose la question de l'autre côté.
S'il y a plus, c'est plus.
S'il y a plus. Si j'ai, d'accord, ça veut dire, comment on a dit? On a dit, c'est 1,4 kg pour 4 mètres carrés.
Ouais.
D'accord? Si j'ai 400 mètres carrés.
Et 1 kg 4 multiplié par 200.
Multiplié alors. Par. Non, c'est multiplié par 100. D'accord. Donc ça fait 140 kg. J'ai 140 kg, d'accord. Mais 140 kg que ça éparpillé en. Comment on a dit 400 mètres carrés. D'accord.
Si c'est une
pas très grand pour un champ. Très bien. Non, pas une grosse exploitation. Disons.
On perd ses profits.
Alors, la même question va se poser. On aura c'est celle-là la question que Gemara va poser tout de suite. On va avoir le même doute qu'on vient de dire, mais de l'autre côté. Dans les mots de la Gemara. Kabaïm Bishtamot, un autre doute.
S'il y avait. Troisième question, c'est là
deuxième. S'il y avait deux caves. S'il y avait deux caves dans 4 amotes. Dans 8 amotes, pardon. Ça veut dire quoi? Donc 2 caves, ça veut dire 1 kg 4 x 2, ça veut dire 2 kg 8.
C'est le double.
2 kg 8. Dans 8 amotes, ça veut dire dans.
L'inverse.
8 amotes, ça veut dire combien de mètres carrés?
8 mètres carrés.
8 mètres carrés.
8 mètres carrés. 8 mètres carrés, oui.
Mètres carrés
c'est ça.
C'est toujours.
Non, mais attendez, c'est sur... plus là.
Non, c'est le double, regardez, c'est ça.
C'est 4 mètres.
Seconde, oui, d'accord. Non, 4 x 8, 32, je suis désolé.
Non, 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 il a, non, c'est pour ça.
Non, 8 amotes, c'est toujours sur 4 amotes.
Non, non, attention, il ne faut pas exactement. C'est pour ça qu'il y a le dessin en bas. J'ai failli m'embrouiller avec le truc. Ça veut dire que le dessin en bas, il montre, il dit en vérité, c'est 2 fois 4 amotes.
Ouais.
D'accord, c'est pas 8 amotes carrés.
D'accord.
2 fois 4 amotes.
Mais même tout à l'heure, quand il est descendu
dans le dessin. Dans le dessin en bas, il te montre 8 sur 4.
Ouais.
D'accord, très bien.
Donc 32 mètres carrés.
Non. 32 amotes carrés.
Non.
Ça fait pas 32 mètres carrés.
Non,
32 carrés. 8
32 sur 4.
2 mètres sur 4 mètres. Ça fait 8 mètres carrés.
2 mètres
sur 2 amotes carrés.
C'est 8 mètres carrés.
Non, 8 mètres carrés.
Carrés.
On est bien d'accord, 8 mètres carrés. Très bien. 2 mètres sur 4 mètres, ça fait 8 mètres carrés.
Donc c'est comme tout à l'heure.
C'est comme tout à l'heure.
C'est comme 4 mètres carrés.
C'est comme. Ah oui, mais donc tu multiplies par 2.
Je multiplie par 2. C'est comme tout à l'heure, sauf que c'est le double.
Ça montre que dans une. D'un côté, pas de l'autre.
Et alors là aussi, on aura le doute de Ravir Mia. Alors, on aura le même de Rabbi Mia, il va nous montrer comment on peut répondre des deux côtés. Il dit comme ça. D'un côté, je peux te dire que cave barba amot, que quand c'était un cave dans 4 amot, 1 kg 4 pour 2 mètres, enfin pour 4 mètres carrés, ça, mama, il a raison pourquoi. Je veux dire que les propriétaires l'ont abandonné. Michoum in fichti chayou, parce que la fatigue est grande. Donc si je dis que la fatigue est grande et que psychologiquement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai abandonné, à plus forte raison, que 8 mètres carrés, la fatigue est encore plus grande, donc c'est sûr que j'ai abandonné. Ce paramètre psychologique est encore plus fort. Très bien. D'un autre côté, comme tu as dit Ariel, d'un autre côté, Odilma, ou bien je veux dire, donc pardon, Rocheken Kabaim Bishmonamot, Kevan Fishati Chayut, Femaf Karleu, ça je vais le dire à l'oral. Odilma, ou bien je veux dire, de l'autre côté, hein. Je dis non! Que, pourquoi j'ai abandonné tout à l'heure 1 kg 4 dans 4 mètres carrés, Michoum de l'Orachivé, parce que c'était pas important, c'est trop peu. Mais, Kabaï Bishmona Amot, mais quand quand la quantité est plus grande, c'est vrai que c'est éparpillé plus, mais la quantité est plus grande, donc l'enjeu est plus grand, peut-être que là, dans ce cas-là, l'Omafkarlaou, je l'abandonne pas.
Donc, c'est vrai qu'il va falloir déterminer un seuil.
Donc, on va devoir déterminer un seuil. Alors, c'est pas très encourageant, mais la Gemara n'aura pas de réponse sur les 4 questions qu'on va poser. La Gemara restera sur un doute. On sait pas, on connaît pas la réponse à ces 4 questions.
Oui, parce qu'on en a pas.
On n'a pas de réponse.
Alors, comment
la halakha devrait toujours du côté, la halakha devrait toujours du bon, ça enverra la halakha.
C'est même pas comment il a trouvé
le côté, du côté.
C'est même pas comment il a trouvé
Je dis encore les deux cas, on passe à la Khazara.
Comment il a trouvé cette mesure?
Qui? Ah, ça on sait même pas ça, il l'a pas dit. Bon, ça on va pas lui demander.
Non, c'est pas une hypothèse.
C'est sûr.
Non, mais c'est-à-dire, il hypothèse.
Ça, c'est comme toujours, c'est les Chachamim qui estiment par rapport aux besoins de l'époque.
Si on avait mis du temps, après 3-4 jours, on peut penser que le gars ne va pas revenir.
Là, on n'a pas mis ce paramètre.
On n'a pas mis le temps, on a fait que la
parce que tout se joue au moment où la personne quitte le champ. Qu'est-ce qu'il dit? Tout se joue à ce moment-là. D'accord. Troisième doute. Vous aurez tout ça à la Chazara pour réviser. Cave. D'accord. Berba Amot. Excusez-moi. Kav Shumshemin Barbamot. Si maintenant, c'est encore un autre cas, c'est le même concept qui va revenir. Pour ça je vous dis, c'est 4 questions dans lesquelles le concept est le même, parce qu'on ne sait pas de quel côté il faut voir la chose. Kav Shumshemin Barbamot. S'il a trouvé un kav, donc ça veut dire 1 kg 4 de Shumshemin, de grains de sésame. D'accord? Shumshum. Alors Shumshum encore en hébreu. On met sur les gâteaux, on fait beaucoup avec le Shumshum. Berba Amot dans 4 Amot. Alors, pourquoi on nous parle de Shumshum?
Ça a de la valeur.
Je sais pas si aujourd'hui encore ça vaut cher, mais à l'époque ça valait très cher.
Oui, ça coûtait un peu plus cher. Aujourd'hui
ça vaut un peu plus cher, mais à l'époque le sésame était très cher. Ça se vendait très cher.
Donc,
dans ce cas-là, écoutez bien, c'est quoi le problème? C'est que d'un côté. Écoutez bien la question maintenant. on va rester toujours dans un cave dans 4 amotes. Ça veut dire 1 litre 4 pour 4 mètres carrés. Mais le problème que j'ai ici, c'est quoi? Le problème que j'ai ici, c'est que c'est des grains de sésame. Et j'ai encore une fois, j'ai le même problème. D'un côté, les grains de sésame, c'est très petit. Donc c'est une grande galère à ramasser. Mais d'un autre côté, ça vaut cher. Ah, donc on a encore une fois.
Oh là là, c'est ouais, d'accord.
Vous voyez, les mêmes deux paramètres qu'on a dit. Est-ce qu'on se base sur la fatigue ou est-ce qu'on se base sur l'importance? Si tu te bases sur l'importance, là dans ce cas-là, les grains de sésame, c'est important.
On a augmenté les deux côtés, d'accord, la fatigue.
Mais si tu me dis que c'est par rapport à la fatigue, dans ce cas-là, bien sûr que c'est fatigant. Donc dans ce cas-là, si c'est fatigant, eh ben, je veux dire que j'abandonne. Dans les mots de la Gemara. Cave barba amot. Quand c'est un cave dans 4 amot, vous inquiétez pas.
Pas forcément, hein. Parce que peut-être que c'est plus fatigant, mais comme c'est plus rentable...
Vous inquiétez pas, hein, toute la Gemara, on fera pas tout ça dans la Gemara, hein. Après, on va avoir des cas...
On va donc avoir les 4, comment on dit...
Oui, les 4 extrêmes, oui, je vois ce que vous voulez dire. 4 hypothèses possibles. J'ai compris ce que vous voulez dire. Oui.
Voilà.
Alors, cave barba amot. Qu'est-ce que je veux te dire? Oui, mais il a raison, j'ai bien compris.
On peut trouver d'autres combinaisons.
Non, il a raison, c'est les 4 combinaisons. Il n'y a pas plus que ces 4 combinaisons. Quand on a couvert les 4 combinaisons qu'on va dire, d'accord, on a tout couvert. Il a raison. Cave barba amot, dit comme ça. Mais essayez de le mettre sur papier dans la Khazara, vous verrez que M. Bismuth a raison. On a couvert toutes les combinaisons. Cave barba amot, si c'est un cave dans... Donc encore une fois, le cas c'était quoi? C'était un cave... 1 kg 4 de grains de sésame dans 4 amotes. Alors, qu'est-ce que je te dis? Cave barba amot.
1 kg 4.
1 kg 4 dans 4 amotes. Donc, cave barba amot. Quand c'était tout à l'heure, tu m'as parlé de graines normales, standard de blé. Ta mama est la raison pourquoi tu dis que la personne les a abandonnées, le propriétaire les a abandonnées. Mishum de l'ochachivé, parce qu'ils ne sont pas importants. Bon, c'est du blé, ça va, c'est pas la fin du monde. D'accord? Mais Mishum chemine, mais 1 kg 4 de grains de sésame, kevan de chachivé, ça vaut cher, puisque c'est important. D'accord? Je veux dire que le Mafkar Laou, il les abandonne pas. D'un autre côté, je veux dire. Odilma, ou bien on va dire, de l'autre côté, que non. Mishum en fish tichayou, que la raison pour laquelle on a dit qu'un cave dans 4 amotes, on a dit que on considère que c'est abandonné parce que la fatigue est grande. Et là, le paramètre de fatigue est beaucoup plus fort. Les grains de sésame, allez ramasser des grains de sésame. D'accord? Donc, shum shemin, kevan en fish tichayou de fait, puisque leur fatigue est beaucoup plus grande, Mafkar Laou, il les abandonne. Donc encore une fois. Ça dépend de quel paramètre on regarde. Si on se base sur le paramètre importance, d'accord, là l'importance est plus grande, donc on va dire qu'il les a pas abandonnés. Mais si on se base sur le paramètre fatigue, là au contraire, la fatigue est plus grande, donc il les a abandonnés, la plus forte raison. On ne sait pas.
C'est pas...
Quatrième doute, et je finis avec ça, avant la phrase 1. Quatrième doute. Cave Tmarim. Si c'était un cave de Tmarim, de date, vers Bahamot, dans 4 Amot. Donc là, c'est plus des graines de blé, mais c'est des dates.
Donc
c'est plus facile à ramasser. Ou bien,
plus de valeur,
ou cave rimonée, attends. Ou bien, cave rimonée, berbam. Ou bien, des figues. Encore plus facile à ramasser. Mais, 1 kg 4, je l'ai. 1 kg 4 dans 4 mètres carrés. Mahou, quel est l'outil? Alors, cave, berbam, pareil, la Gemara va montrer les deux côtés. Cave, berbam, le cave de berbam, tamamai, mouchoum de l'ochachivé. Qu'est-ce que tu me dis? Si tu me dis que la raison pour laquelle tu m'as dit pour les graines de blé, c'est parce que on estime que 1 kg 4 dans 4 mètres carrés, c'est pas important, hein, là dans ce cas-là, Kastamare barba amot, kavrimone barba mami, kevandelo chachivé, mafkarlou. Si tu me dis que c'est par rapport au paramètre de l'importance, que 1 kg 4, 1 kg 4.
Financier, tu veux dire importance, hein?
Oui, importance financière. Donc 1 kg 4 dans 4 mètres carrés, on abandonne. Parce qu'on se base sur l'importance financière. Donc dans l'importance financière, des figues et du blé, ça a la même valeur. En tout cas à l'époque. D'accord? Des figues et du blé, ça a la même valeur. Donc, paramètre financier est le même. Donc si tout à l'heure tu m'as dit que 1 kg 4 dans 4 mètres carrés, j'abandonne. Donc 1 kg 4 de figues dans 4 mètres carrés, j'abandonne aussi.
Oh, non, d'accord, c'est d'accord, ramasser. Ah oui, on s'attendait au tournant.
Elles sont peut-être même branchées.
Mais d'un autre côté...
On s'attendait au tournant. Tu crois que t'allais...
Mais d'un autre côté... Attendez, la Gemara, c'est bien, vous suivez. Mais, Vekav Tamare Barba Amot, mais d'un autre côté, Odilma, ou bien on va dire, Bishum une fiche à Tichay, ou bien je veux dire que non, que le paramètre de 1 cave dans 4 amotes a été dit par rapport à la fatigue. Et vous avez tous raison, le paramètre de la fatigue n'existe pratiquement pas dans quand c'est des filles. D'accord, c'est pas la fin du monde. Ramasser 1 kg 4 de figues dans 4 mètres carrés, c'est vrai que c'est beaucoup quand même, hein. 1 kg 4 de figues dans 4 mètres carrés, bon, c'est vrai qu'il faut ramasser un peu partout, mais c'est pas la fin du monde, c'est faisable.
C'est rapide.
Bon. On visualise, là. Donc, Kevan Delon Fishti Chayou, puisque la fatigue n'est pas grande, le Mafkar Laou, il va pas les abandonner. D'accord ? Encore une fois, ça veut dire, en d'autres termes, on ne sait pas ce que la Mishnah voulait dire. On ne sait pas pourquoi la Mishnah a donné ce paramètre de 1 kav dans 4 amas, puisque la Mishnah n'a pas dit de quoi elle parlait. La Mishnah n'a pas dit de quoi, elle n'a pas expliqué le paramètre qu'elle voulait dire. Est-ce que c'est un paramètre d'importance, ou est-ce que c'est un paramètre de fatigue ? Si c'est un paramètre d'importance dans le cas que je viens de dire, l'importance des figues et l'importance de... Ça veut dire, si c'est un paramètre d'importance, que la personne 1,4 kg, pour lui, il ne se prend pas la tête pour ça. Il dit, bon, elle est 1,4 kg, je laisse. C'est pour moi comme des centimes. Dans ce cas-là, ce paramètre est valable dans le blé, comme il est valable dans les figues. Je dis, bon, elle est 1,4 kg, je laisse. D'accord ? Très bien. Mais d'un autre côté, 1,4 kg, c'est plus facile à ramasser. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Oui, mais ça peut être les deux.
Donc, si je m'attends, c'est les deux.
C'est ou l'un ou l'autre.
Non, pourquoi ?
Ah non, c'est ou l'un ou l'autre, ça peut pas être les deux en même temps.
Ça veut de la fatigue par rapport à la valeur ?
Non. Parce que justement, c'est ça le problème, c'est que Rabbi Yitzhak n'a pas dit ce qu'il voulait dire. Donc on ne sait pas est-ce que c'est par rapport au paramètre de la fatigue ou est-ce que c'est par rapport au paramètre de l'importance.
Non, il peut y avoir les deux paramètres. Il y a quelque chose qu'il a dit jusqu'au bout, qu'il nous dise quand même ce qu'il a dit.
Non, mais on a perdu ce qu'il a dit.
C'est le problème, on a perdu ce qu'il a dit. On a perdu.
Pas qu'il n'a pas dit.
D'accord. Ah, alors Tekou, qu'est-ce que dit la Gemara ?
C'est pas pour rien.
La Gemara dit, non, c'est pas pour rien, c'est pour nous dire que Tekou. Tekou, ça veut dire quoi, Tekou ? Tekou, c'est-à-dire ça reste en suspens. Comme c'est même aujourd'hui en Israël, quand il y a des matchs de foot et que c'est. Et c'est par
match
exemple
nul.
Match nul, ils disent Tekou. Alors, c'est quoi ce mot Tekou ? Tekou, c'est les rachetés votes de Tishbi, Taret, Kushot, Veibayot. C'est Eliyahu Hanavi qui nous répondra à cette question. Ouais. Alors, dans les faits, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?
Dans les faits.
Tishbi, Yetaret, Kushot, Veibayot.
Le Tishbi.
Tishbi.
Mashiach, Yetaret, il va répondre. Kushot, les questions. Veibayot, c'est deux styles de questions qu'on a dans la Gemara. Kushia et Ibaya. Très bien. Ça veut dire Kushia et Ibaya. Kushia, c'est quand on a deux choses qui se contredisent. Et Ibaya, c'est comme une question que dans l'autre style, c'est quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la réponse. Il n'y a pas de contradiction, mais on ne connaît pas la réponse. Bon. Donc, Machia va apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait entre-temps ?
Combien y a de temps entre le Rabbi Irmiya et Rabbi...
Entre Rabbi Irmiya et...
Ouais.
Et Rabbi Yitzhak,
Ouais.
Plusieurs centaines d'années.
Ouais, donc, ouais. On a vraiment perdu le fil. Là.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les faits aujourd'hui ? Dans les faits aujourd'hui, si un cas comme ça se présente, qu'est-ce qui tranchera ? Qu'est-ce qui tranchera la halakha ? Quand ? Qu'est-ce qui tranchera la halakha ? La halakha tranchera comme ça. La halakha tranchera qu'on doit toujours aller pour le bénéfice, pas de celui qui trouve, mais pour le bénéfice de celui qui a perdu. Mais. Et c'est là la question. Et là, il y a une marloquette entre Maïmonide et les autres décisionnaires. Est-ce que celui qui les a trouvés aura l'obligation de proclamer ? D'accord, tu me dis qu'on va pour le bénéfice de l'autre qui va revenir. Ok. Mais est-ce que je dois prendre en hypothèse qu'il va revenir ou pas ? Alors Maïmonide dit que non. Si on te dit que l'autre il va revenir, ça veut dire que toi tu peux continuer ta route et tu dis l'autre il reviendra, sinon tant pis pour lui. Il y a deux décisionnaires qui pensent dans le Shulchan Aruch qui pensent que non. Non seulement ça ne m'appartient pas, mais j'ai l'obligation de proclamer. Donc par proclamer, entendez, ça peut être par exemple de le ramener à son propriétaire, de dire si je sais que c'est à qui c'est.
Ça veut dire que je le ramasser
aussi. Oui. Maïmonide ne pense pas comme ça. Non, attention, n'oubliez pas quelque chose, ça on verra dans la suite dans la Gemara. La Gemara dira que quand je ramasse une perte, j'ai le droit de demander
un paiement
pour la fatigue que ça m'a coûté.
Ouais, mais je ne trouverai jamais le proprio. Donc il faut que je me lance dans cet investissement.
Non, mais là, je garde les fruits.
Il n'y a personne qui garde.
Parce que là, je garde les fruits.
Il y a une date, il y a un délai.
On ne peut pas le garder longtemps.
Si, on va parler de tout ça.
Ça va claquer peut-être.
On va pas, exactement. Dès que les fruits commencent à claquer, je dois les vendre. Oui, c'est pas de la blague.
Et
on verra même dans la Mishnah, on verra même dans la Gemara, pardon, la Gemara dira, je dois les vendre à quel prix ? Parce que moi, je dis, bon, je les vends, c'est pas à moi, je les brade. Non, t'as pas le droit de les brader.
Ouais.
On va voir tout ça.
Qu'est-ce que tu fais avec l'argent après tout le monde ?
Très compliqué, quand la Torah nous donne...
Et l'argent,
non,
ça ne le place plus. Parce que si tu l'as pas placé, le propriétaire...
Non, j'ai trouvé quelque chose d'arme cata, je m'en vais.
Ça sourd, la Torah dit, ça sourd. Ça sourd d'ignorer.
Ouais.
C'est dur, très dur. On se rend pas compte, c'est pour ça qu'il y a un chapitre
3. On va pas fermer les yeux sur ce que tu trouves.
Donc, conclusion de ce qu'on a eu aujourd'hui, on n'a pas de conclusion, on n'a pas de réponse. D'accord ? On a posé 4 questions, on n'a pas eu de réponse.
J'ai bien compris, les deux premières questions sont sur la surface.
Ça va être intéressant à la suite, ça va être très intéressant dans la suite de la Gemara, parce qu'on va analyser, ça va être très intéressant parce qu'on va se mettre à analyser des cas qu'on a eu dans la Mishnah, et on va analyser dans quel cas on considère que la personne a abandonné. Parce qu'après, il y a des nuances. Quand c'est de l'argent, par exemple. Dans quel cas tu vas estimer que la personne a abandonné ? La Gemara donnera un cas par exemple, si une personne a fait tomber son porte-monnaie dans la mer. D'accord ? Avec ses initiales. D'accord ? Mais c'est la mer ! Et il y a un nageur professionnel, il plonge, il le prend. Là, il y a des paramètres, on va dire.
Attends, donc il faut que la personne
c'est la mer. La personne a renoncé, c'est la mer.
Ouais.
D'accord ? Donc tous ces paramètres-là, on verra Bezrat Hashem dans la suite de la Gemara.
Ouais.
Bon, au moins on a commencé. Chazara. Allez-y, monsieur.